Rendez-vous avec, une émission proposée et présentée
par Joël François Dumont et Jean-Michel Poulot.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Rendez-vous avec. Merci pour votre fidélité, pour ces rendez-vous que nous avons multipliés ces derniers mois. Le temps passe vite, il y a déjà 3 mois que nous avons initié ces émissions. Très spéciales, nous l'espérons pour vous, très agréables également, avec pas par un souci de gommer la parité, surtout pas mesdames, mais des hommes d'exception. Aujourd'hui, nous allons continuer dans cette démarche, tout simplement parce que pour l'instant, ces hommes sont encore malgré tout beaucoup plus nombreux que les femmes d'exception, même si elles existent. Cette fois-ci, nous allons nous aventurer dans des terres lointaines et très éloignées l'une de l'autre. Il y aura 2 territoires. Le premier, c'est le Groenland. Le second, la Terre Adélie, avec l'un de nos invités qui a fait partie d'une équipe très célèbre aujourd'hui, sans doute trop oubliée. Celle des expéditions polaires françaises conduites par Paul-Émile Victor. 3 prénoms qui font un nom que ceux qui en ont entendu parler, qui ont lu quelque chose, ne peuvent plus oublier. Après la Deuxième Guerre mondiale, les chiens de traîneau ne permettent plus de se mouvoir dans des espaces aussi vastes et aussi imprévisibles que ces grands espaces gelés. L'hélicoptère semble s'imposer là aussi comme le meilleur des moyens de déplacement. Mais encore fallait-il le prouver sous des climats a priori beaucoup trop compliqués, austères. C'est là qu'intervient un ancien de l'armée de l'air, que nous accueillons aujourd'hui, Gilbert Aubray, qui intègre l'équipe de scientifiques et de techniciens français et étrangers qui sont lancés dans cette grande aventure. Les expéditions polaires françaises, les EPF, sont nées et elles dureront de 1956 à 1995. Aujourd'hui, ces explorations, ces études se poursuivent sous d'autres formes. Avec Gilbert Aubray, pour en parler, un autre hélicoptériste de l'armée de l'air que vous connaissez déjà, le général de division Philippe Carpentier. Tous deux ont en commun notamment d'être des amis fidèles de l'association des Amis du Pyrénées, dont Gilbert Aubray a été le premier président. Nous retrouvons également en direct de Berlin Joël François Dumont, avec qui nous avons lancé cette série d'émissions sur la voie du Béarn pendant cette longue période de confinement qui vient enfin, en principe, d'être à peu près complètement levée. Alors, je vais commencer par celui qui co-présente avec moi, Joël François. Bonjour, très heureux de vous retrouver.
Bonjour Jean-Michel.
Et ensuite, je vais passer par notre invité d'honneur aujourd'hui, Monsieur Gilbert Aubray. Bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Bonjour à tous, bonjour.
Bonjour monsieur.
Et bonjour, je terminerai Gilbert. Avec le général Carpentier. Général, très heureux de vous retrouver et merci à vous aussi d'être là avec nous une nouvelle fois.
Bonjour mon général. Oui.
Bonjour, c'est un plaisir en si galante compagnie. Aéronautique.
Alors, avec vous, messieurs, nous allons tenter cette fois-ci de découvrir une zone pratiquement inconnue qui se trouve être aussi l'une des plus inhospitalières du monde du fait des conditions extrêmes qui s'y trouvent. J'ai déjà beaucoup parlé, je vais peut-être passer la parole à Joël François. Pour une fois, je vais le faire sous forme de boutade, Joël François. Ne me dites pas que ces zones-là, vous les avez également visitées.
Disons que je suis passé au-dessus 30 fois, mais je ne me suis jamais arrêté. J'y ai pensé parce qu'un jour, on avait un problème de moteur et notre avion volait extrêmement bas. Finalement, on est allé se poser d'urgence au Canada avec un moteur en feu. Mais en attendant, je suis passé assez près et je voyais des hommes et des femmes avec des traîneaux qui étaient sur la glace. Donc, ça a été une grande émotion. Mais si on m'avait dit qu'un jour, depuis le Béarn, je pourrais remonter au Groenland, alors là, je n'aurais pas cru. Alors Jean-Michel, cette magnifique région, pour en parler, on a quand même une chance extraordinaire. On est pratiquement tombé sur un palois, quand même. Imaginez quelqu'un de Pau aille ensuite dans l'Arctique, il fallait quand même le trouver, cet oiseau rare. Eh bien, nous l'avons aujourd'hui, et je pense que la personne qui est la plus à même de nous en parler, qui connaît bien, c'est le général Carpentier. Alors, mon général, est-ce que vous pourriez nous présenter Gilbert Aubray?
Oui, avec grand plaisir. Donc, Gilbert a eu une belle carrière militaire, puis un très beau parcours dans le civil. Il mérite qu'on les présente. Donc, Gilbert, tu étais pupille de la nation, et en 1962, tu es entré dans l'école des apprentis mécaniciens de l'armée de l'air de Saintes, les ARPETS. Cette école prépare ses élèves en 2 ans pour entrer à l'école de formation des sous-officiers techniciens de l'armée de l'air de Rochefort. Cette école forme maintenant les mécaniciens aéronautiques des 3 armées. En 1965, à la sortie de Rochefort, qualifié mécanicien, tu rejoins la base aérienne 113 de Saint-Dizier, dans l'unité qui assure la maintenance deuxième échelon des hélicoptères H-34, le célèbre hélicoptère qui équipait l'armée de l'air en Algérie. En début d'année 1969, tu rejoins la base aérienne 725 de Chambéry, dans le même type d'unité. Tu as à peine le temps de poser tes valises que tu repars pour le Tchad pour 2 ans et demi. En 1972, tu rejoins le H-167 Pyrénées de Cazaux. Tu effectueras des détachements au Gabon et en République centrafricaine en 1977, notamment à l'occasion du sacre de Bokassa. On aura probablement l'occasion d'en reparler au cours de cette émission. Tu auras aussi trouvé le temps de participer à 3 expéditions polaires, une au Groenland en 1968 et 2 en Terre Adélie, au pôle sud, pour les campagnes 75-76 et 76-77. Puis feras ton voyage de noces seul. Tu quittes l'armée de l'air en 1978 après un parcours riche et très varié. Soucieux de comprendre le métier de pilote, tu passes ton brevet de pilote d'hélicoptère au sein de la société Fenwick. Puis tu entameras un autre très beau parcours au sein de la compagnie française d'hélicoptères, Heli Union, qui à l'époque compte environ 150 appareils. Tu travailleras pour elle au Brésil, au Vietnam, puis de nouveau pour une très longue période au Brésil comme responsable technique et représentant de la compagnie. De Belém, au sud de Manaus, à Salvador de Bahia, tu connaîtras les conditions de vie rustiques des équipages d'hélicoptères qui travaillent pour la prospection pétrolière en forêt équatoriale. Tu termineras par des missions en Tunisie, au Cameroun, et le suivi d'une plateforme de forage qui remonte du Sierra Leone jusqu'au Maroc en faisant régulièrement des forages exploratoires. En 1990, tu rejoins la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux comme directeur des relations portuaires avec le port autonome de Bordeaux. Tu continues à beaucoup voyager pour trouver du fret pour le port. Ton sens du contact, ton talent pour les langues étrangères font de toi un émissaire efficace. En 1994, tu rejoins Caen pour inciter l'implantation d'entreprises dans des usines de métallurgie qui ont cessé leur activité. Tu reviens sur Bordeaux en 1997. Tu as toujours conservé un lien avec les hélicoptères de l'armée de l'air et notamment avec le H-Pyrénées de Cazaux. Tu proposes au commandant d'escadron de créer une association pour maintenir les liens entre les jeunes générations et les anciens qui ont quitté le service actif. Tu t'investiras beaucoup pour la créer, la faire vivre et lui trouver des ressources financières. Donc tu as présidé cette association, les Amis du Pyrénées, par 2 fois pendant 12 ans et tu m'as passé le flambeau il y a 3 ans. Tu étais aussi largement investi pour laisser une trace écrite de notre histoire. Tout d'abord, le livre qui constitue la trame de l'émission d'aujourd'hui sur notre participation aux expéditions polaires françaises. Tu as participé activement, même si malheureusement ton nom ne figure pas parmi les auteurs, à la rédaction de la Bible des hélicoptères de l'armée de l'air, un magnifique livre de 666 pages qui retrace toute notre histoire. Il y a 2 ans, tu as collecté les anecdotes de tous nos vénérables anciens avant qu'ils nous quittent et tu leur as rendu hommage en les compilant dans un petit livre très intéressant. En 1990, tu as écrit l'histoire de l'EH-167, des origines jusqu'à 1990, et tu viens de te lancer dans la suite de cette histoire, la déclassification des documents le permettant. Tu continues toujours à te dévouer pour maintenir le lien avec nos camarades les plus âgés qui sont frappés par la solitude et la maladie. Donc, comme ont pu le constater nos auditeurs, tu as eu un parcours professionnel et associatif très riche et très varié, très centré sur les hélicoptères, ces merveilleuses machines volantes. Nous sommes donc impatients de t'entendre nous conter l'extraordinaire aventure des expéditions polaires françaises. Alors, je vais commencer par une première question. Est-ce que tu peux déjà nous parler de ta passion pour les hélicoptères, aussi bien dans l'armée de l'air et dans le civil, et ce qui t'a conduit à vouloir écrire ce livre témoignage sur la participation des hélicoptères militaires aux EPF?
Oui, Philippe, l'hélicoptère permet de rencontrer des gens, puisqu'on est, on est un peu comme dans un taxi, et les passagers discutent avec nous, on se retrouve seul dans des lieux, et ça permet de nouer des contacts des plus intéressants. Ça permet aussi d'aller dans des lieux très rapidement, le plus rapidement possible, où personne n'est allé avant nous, que ce soit en haute montagne à la recherche de gens accidentés, que ce soit sur la mer à la recherche de marins en péril, ou que ce soit donc en Amazonie, au milieu de la forêt, rencontrer des Indiens ou voir des Indiens qui ne recherchent pas forcément le contact, mais qu'on aperçoit et qu'on peut deviner. Ça m'a permis aussi d'aller voir, donc, de vivre chez les Groenlandais, chez les Esquimaux, chez les Inuits maintenant, on parle, puisque Esquimaux, ça veut dire mangeur de viande en indien Iroquois, je crois. Et donc, ça permet de rencontrer ces gens, ça permet de rencontrer des scientifiques de haut vol, ça permet de rencontrer Paul-Émile Victor, que j'ai tellement apprécié et qui me l'a bien rendu puisqu'on avait gardé des contacts ensemble et il m'appelait Gilbert, il ne m'appelait pas Monsieur Aubry. Ça m'a permis de rencontrer son second et de rester toujours en contact avec lui jusqu'à ce qu'il décède je reste en contact avec son épouse, avec sa veuve, Robert Guillard, avec qui on s'est découvert des amitiés communes et d'autres, notamment Jean Billot, des gens comme ça, puisqu'ils étaient à l'école ensemble en 38 ou 39, donc à Rochefort-sur-Mer à l'école. Et Tonton, c'était le surnom de Robert Guillard, et a failli se payer le clocher de Soubise en faisant un... avec son avion à école, mais voilà. Et après c'est des gens. Donc je te laisse la parole, Philippe.
Oui, voilà. Donc les équipages d'hélico sont des ethnologues. Si on envoie l'hélico partout, on ne peut pas envoyer un chameau, quoi.
Ben voilà. Ça permet de prendre contact aussi. Après, il faut avoir la volonté de prendre contact avec les gens sur place, que ce soit au Tchad aussi, dans des petits villages, ou de rendre service, de faire des évacuations sanitaires de personnes fragilisées, ou si ou ça, bon, de découvrir des choses auxquelles on n'est pas habitué, quoi. De découvrir. L'hélicoptère, c'est la découverte. De descendre du bois, descendre du bois par hélicoptère, c'est un beau jeu aussi, un jeu assez dangereux, et puis de rencontrer des bûcherons, on rencontre tout type de personnes et on a des liens avec eux, puisqu'on est à leur service. L'hélicoptère est au service du client, et pas l'inverse. Et des passagers, que ce soit militaire ou civil, il est là pour être au service. C'est un outil de service.
Donc, écrire un livre, c'est quand même toujours, c'est toujours compliqué. Moi, je suis admiratif parce que j'ai toujours l'angoisse de la page blanche quand je dois écrire un article. Donc, tu t'es lancé dans cette aventure d'écrire un livre sur notre participation aux EPF. Donc, qu'est-ce qui t'a motivé? Et bon, j'imagine que ça a été difficile parce que bon, le livre est très complet, il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de documentation et tout ça. Donc, comment tu t'es lancé dans cette aventure?
Bien, notre participation aux expéditions polaires françaises, déjà, elle repose sur les trois armes. La terre, en Terra Deli, qui a débuté, l'air, donc, au Groenland, Et il ne faut pas oublier aussi les marins au Kerguelen qui ont participé une fois en 1961 à une expédition polaire au Kerguelen. Donc pourquoi je me suis... Parce que c'était une mission qui n'était pas militaire, pour laquelle, on va dire, le commandement militaire air, mer, terre ou des trois armes n'avait aucun intérêt. C'était une mission au service de la science, donc parce que il n'y avait pas de société d'hélicoptères suffisante et pouvant se payer le luxe d'immobiliser des hélicoptères pendant, on va dire, 6 mois pour la Terra Deli, à des frais compétitifs. Il y a toujours une histoire d'argent aussi. Donc Victor, qui avait, par son passé, qui avait noué beaucoup de relations, il a toujours pensé à l'Alouette 2, que ce soit au Groenland, en Terra Deli, pour que les Alouettes 2 viennent à son secours, quoi, parce qu'il s'était aperçu que ça pouvait rendre énormément de services. Donc et il a payé la facture en faisant un film on va dire de propagande, de publicité pour l'Alouette 2, et que je crois que je l'ai retrouvé hier, je l'ai sur DVD. C'est grâce à des gens comme ça, mais après c'était devenu c'est pas du tout rentable, trop onéreux pour l'armée de l'air, et donc l'armée de l'air a cessé, et puis l'Alouette 2 était en fin de vie aussi. En 1995, elle avait fini sa carrière dans l'armée de l'air, elle était remplacée depuis longtemps, que ce soit techniquement ou voilà, à tous les points de vue.
Donc tu as eu tout le soutien dont tu avais besoin pour écrire ce livre, les gens t'ont coopéré, t'ont aidé à rassembler leurs souvenirs et leur documentation?
J'ai appelé tous les gens, bien sûr. Bon, d'autre part, je n'ai jamais coupé les liens avec les expéditions polaires françaises, et donc les expéditions polaires m'ont aussi aidé à écrire ce livre, qui les intéressait pas plus, parce que les expéditions polaires, il y a énormément d'archives des expéditions polaires françaises, mais ça repose beaucoup sur la science, sur la glaciologie, sur toute la science. Donc je me suis reposé aussi sur un monsieur qui était palois à l'époque, enfin qui avait pris sa retraite des expéditions polaires françaises et qui était devenu palois, c'est tonton monsieur Robert Guillard, quoi. Et donc comme nous apprécions, on se connaissait bien, on avait des meilleures relations possibles, donc tonton m'a beaucoup aidé pour écrire le bouquin. Voilà. Et je l'ai aidé pour un peu, pour faire le sien, un tout petit peu, beaucoup moins, mais enfin, il me téléphonait ou il prenait appui sur le bouquin que j'avais écrit pour faire le sien.
Donc, alors, maintenant, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce phénomène qui était Paul-Émile Victor et son complice Robert Guillard?
Paul-Émile Victor, c'est un Genevois, hein, ses parents, il est né à Genève. Et ses parents étaient à Lons-le-Saunier, ils avaient une société à Lons-le-Saunier. Et Paul-Émile Victor, ça ne l'enchantait pas plus que ça de prendre la suite de son père, quoi. Donc, il a fait plusieurs travaux, il s'est engagé dans la marine à un moment, enfin, il bougeait, il avait la bougeotte. Et puis, il a eu l'idée, il s'est intéressé aux populations océanienne, c'est-à-dire de Tahiti et tout ça. Et il a fait des études d'ethnologie sur les océaniens, et à ce titre, il a fait un stage donc au Musée de l'Homme à Paris. Et ce stage lui a servi, puisqu'il a rencontré Charcot qui faisait des voyages sur la côte est du Groenland un ou deux par an. Et donc Paul-Émile Victor, Pev lui a demandé s'il pouvait se joindre à lui, et donc pour faire de l'ethnologie chez les Esquimaux, chez les Inuits, chez les Groenlandais, de la côte Est. Donc il a embarqué, ils ont, avec trois autres camarades, Jessin, je m'appelais, et ils ont fait la traversée du Groenland. avec des chiens, avec des traîneaux à chiens, bien sûr. Avant-guerre, il n'y avait, avait pas autre chose. Et ensuite, il est revenu au Groenland et il est resté 14 mois dans une à Agmarsalik, dans une famille esquimau. Et donc, il a vécu, il a écrit son premier livre, c'est « La civilisation du phoque », puisque c'est le seul, c'est la seule viande, et ils ont très très peu de végétaux, hein, ils boivent pratiquement rien, et la côte est du Groenland est plus froide que la côte ouest, puisque la glace reste plus longtemps sur cette côte est. Donc Victor est resté là-bas, et quand il n'est pas reparti avec Charcot, Charcot n'est jamais revenu le chercher, puisque le pourquoi pas, il a coulé au large de l'Islande, donc en revenant de l'emmener l'emmener, il est reparti. Et donc Victor est revenu, et puis la guerre est arrivée, il a rejoint les forces françaises en Finlande, puisqu'il y avait la guerre entre la Finlande et la Russie à l'époque, hein, ça a duré pas beaucoup, mais et il y avait en même temps que Narvik, il y avait aussi un élément de la militaire français aussi en Finlande. Donc il était avec eux, ça n'a pas duré longtemps, il est revenu en France, et en France, là, bon, il s'est aperçu que les événements ne tournaient pas bien du tout, et il a rejoint les États-Unis. Fort de son expérience au Groenland, en Finlande, et il avait fait aussi une expérience, une expédition au nord de la Finlande et de la Norvège, de la Suède, la Hoche et les Lapons. Donc les Américains il était engagé dans l'armée de l'air US, l'US Air Force, au titre de, pour rejoindre un élément de rescue en zone polaire des équipages. Voilà, donc que ce soit en Alaska ou au Groenland. Bon, je ne pense pas que ça ait tellement servi, mais enfin, elle existait. Elle avait les deux. Et puis il est revenu en France, donc il est revenu avec un grade de colonel de réserve de l'armée américaine. Ça a beaucoup servi aux expéditions polaires françaises pour nouer des relations. Sur les bases, nous loger, nous ci, nous ça, sur une base américaine. Hein. Et puis, donc, il a eu l'idée de créer une entité pour faire des expéditions polaires au Groenland. Il a été rejoint par Valette et Lyotard, qui, eux, avaient eu l'idée de faire des expéditions polaires en Terre Adélie. Et donc, ils ont appelé ça les expéditions polaires françaises. Donc, ils sont nés en 47. Hein. Jean-Michel, c'est 47, c'est pas 56. En 1947, donc, création des expéditions polaires françaises. Et il en est resté président jusqu'en 1976. J'ai eu le bonheur de l'accueillir en Terre Adélie en 1976, lui et puis une équipe, dont Jacques Hierto, le réalisateur de cinéma qui est aujourd'hui décédé, qui était venu avec une équipe pour, plus les autorités des terres australes et antarctiques françaises, pour commémorer sa fin de carrière en tant que directeur au sein des expéditions polaires françaises. Voilà, Victor, c'était quelqu'un qui nouait beaucoup de relations, qui avait une ténacité énorme pour chercher des fonds, parce que toutes ces expéditions, bien sûr, ça demande de l'argent, beaucoup d'argent, les bateaux, les avions, les hélicoptères, le personnel technique. Et Victor, par ses relations, il entrait partout. Tonton me disait qu'il l'accompagnait parfois dans les ministères, il avait honte. Et l'autre, il s'asseyait sur le bureau, et puis... il insistait lourdement pour avoir des fonds. Ouais, mais je crois que vous êtes au courant de l'affaire. Il faut insister si on veut avoir quelque chose. Et il a réussi à avoir ses alouettes, il a réussi à avoir des hélicoptères les hélicoptères de l'armée de l'air, c'est de l'armée de terre. C'est plus les terres australes et antarctiques françaises qui ont pu les avoir. Mais enfin, bon, ils ont réussi leur truc. Voilà.
Voilà. Bon, et vas-y, Joël.
Ouais, et donc, Victor, il intervenait quand il venait au Groenland. Il parlait couramment esquimau, mais l'esquimau de la côte est, qui n'est pas tout à fait le groenlandais de la côte ouest. Non, parce que c'est bien différent. Et donc, il intervenait sur les radios locales pour dire bonjour. Voilà.
Monsieur Aubry, c'est intéressant de revenir un peu sur Paul-Émile Victor, qui est quand même un personnage très atypique. Bon, ses parents étaient d'origine juive, ils vivaient en Bohême, c'est-à-dire la moitié de l'actuelle République tchèque. Comme il avait un nom d'origine allemande, il a compris qu'à une époque, il valait mieux partir. Il était attiré par le Jura. D'ailleurs, son père s'est installé à Saint-Claude, où il fabriquait des pipes et qu'il vendait surtout en Angleterre. Mais le fils, effectivement, n'était pas attiré par les pipes. Il était attiré par bien d'autres choses, notamment par les voyages. Et il a été d'abord militaire, parce que quand vous parliez de la Suède et de la Finlande, il était quand même officier de liaison de la Marine nationale à l'époque, entre la Suède, où nous étions un peu basés, et la Finlande. Bon. Ensuite, il est revenu en France. Effectivement, la période, on l'a dit tout à l'heure, était un peu troublée. C'était quand même 1940. Il est allé faire un tour au Maroc, et de là, il est parti aux États-Unis. Et aux États-Unis, il s'est engagé comme simple soldat. On s'est rendu compte tout de suite du potentiel de cet homme, de son expérience assez exceptionnelle dans une terre qu'on ne connaissait pas du tout à l'époque, dont on avait besoin, de l'approprier, du moins de la domestiquer ou de la connaître mieux. Et c'est là qu'il a été engagé par l'armée américaine. Il a tout de suite été nommé lieutenant. Il est allé créer l'une des premières équipes de sauvetage de SAR, comme on dit aujourd'hui, de Search and Rescue, pour les gens, les équipages qui pourraient tomber sur le pôle, comme c'est arrivé. Hein. Bon. Oui. Et donc cet homme a fait une carrière militaire avec les Américains, ça nous a été très utile par la suite d'ailleurs, mais il parlait effectivement plusieurs langues vivantes, c'était un homme de communication, c'était un homme qui avait quand même aussi ce côté résistant, parce que vous l'avez vécu avec lui, pour être capable de tenir dans des contrées aussi difficiles, aussi froides, il faut quand même du tempérament, il faut de la volonté. Et puis en plus, il a été un de ces pionniers scientifiques. Et quand on part dans des expéditions pareilles, évidemment, il faut des budgets, ils sont quand même toujours trop limités. Et donc, on cherche une équipe d'hommes extrêmement solide, et on les choisit un par un. Et vous avez été choisi, justement, pour expérimenter, si j'ai bien compris, l'hélicoptère dans une zone où n'était jamais venu. Or, les expériences, j'en ai eu quelques-unes à bord de l'Alouette. Comment est-ce qu'une Alouette, c'est une question simple que je me pose, comment est-ce qu'une Alouette, on peut voler au pôle Nord? Parce que au pôle Nord, il fait assez froid, et dans une Alouette, on ne peut pas dire qu'on soit bien au chaud.
Alors, l'Alouette 2 au pôle Nord, bon, déjà, il y a la déclinaison. Hein. Et on avait 65 degrés de déclinaison, c'est-à-dire que au cap, il fallait pas oublier d'ajouter les 65 degrés qui permettaient d'aller à l'endroit voulu, parce que nous avions au pôle sud le compas boule, nous n'avions qu'un compas boule et un conservateur de cap qui marchait à air, mais l'air était givré souvent et puis il fonctionnait mal. Et donc, on n'avait que le compas boule. Et le compas boule, au pôle sud, ben, il est vertical, quoi, il bouge plus. Il bouge plus puisque le terrain de Dumont-Durville est pratiquement... il faut savoir que les pôles magnétiques bougent hein, dans l'espace. Hein, ils ne sont jamais fixes. C'est pour ça que la déclinaison change régulièrement. Et donc, en Terra Deli, le compas était vertical. Il ne bougeait plus.
Oui, je crois qu'on peut expliquer que la déclinaison, c'est la différence entre le cap géographique, le cap qu'on va mesurer sur une carte, et le cap magnétique, le cap donc, qui est sur l'instrument de navigation, le compas, qu'il y a à bord de l'appareil. Donc, dans la région des pôles, c'est calamiteux, parce que la différence est énorme.
Mais au Groenland, on arrivait quand même à l'utiliser puisque nous avions une heure de vol entre le village de Jacobson et le convoi Donc, et sur le, pour aller au camp, nous avions une heure de vol, donc il fallait quand même marcher au cap, puisque sur la calotte glaciaire, il n'y a aucun repère fiable. Il peut y avoir, oui, Jean-Michel, vous avez, il y a l'apparition de lacs en fonction du soleil qui de lacs sur la glace, mais ils vont changer de place le lendemain. Enfin, c'est jamais fixe. Il y a pas. Alors que dans l'inverse de la calotte glaciaire vers le village, forcément, on voit la côte et on peut naviguer quand on touche les éléments solides quoi, voilà. Alors, et pour être dans la Louette 2, bien sûr le givre, si on était tout seul dans la Louette 2 ou deux personnes, la respiration ne gênait pas trop. Sinon, mais quand on est avec un ou deux passagers, il fallait nettoyer le plexiglas régulièrement pour voir dehors, quoi, parce que sinon le désembueur il ne fonctionnait pas assez. Le thermomètre était bloqué au minimal, et puis voilà. Mais bon, ça... Voilà.
Alors, et c'est vrai que la Louette 2, hein, c'est vraiment l'hélico dans toute sa splendeur. Je rappelle qu'il a encore le record du monde d'altitude en hélicoptère à plus de 12 000 mètres, détenu par Jean Boulet, pilote d'essai je ne sais plus quel était le nom de la société d'hélicoptères avant Eurocopter et Airbus Hélicoptère à l'époque.
Sud-Est Aviation.
Voilà. Et 12 000 mètres en 1958, un homme seul à bord et tout, ça reste toujours un exploit extraordinaire. Et puis, bon, la Louette 2, c'est quand même une machine, hein, c'est l'hélico dans toute sa splendeur, dans toute son instabilité. Moi, je suis arrivé sur hélico après 300 heures sur avion. Les premières heures, on se demande comment on va maîtriser cette machine, car en fait, là, on ne touche pas aux commandes, on les caresse, quoi. On n'appuie pas sur le palonnier, ce sont les doigts de pied qui appuient sur la semelle des godasses de vol pour ne pas la brusquer. Donc, quand on sait piloter la Louette 2, on sait piloter n'importe quel hélicoptère. Voilà, machine merveilleuse, extrêmement rustique, extrêmement fiable, et qui effectivement était quand même bien adaptée pour ces contrées un peu désolées. Alors, peut-être avant de parler du Groenland, tu pourrais nous dire un mot, Gilbert, sur Robert Guillard, qui était le complice et qui était, je dirais, l'homme en miroir de Paul-Émile Victor, et qui a certainement permis, par son sens de l'organisation et tout, de faire une... Tous les deux ont été un tandem qui a bien réussi. Ils étaient très complémentaires.
Donc, Paul-Émile Victor, c'était un homme de communication impressionnant. Il parlait à chaque personne dans le langage de la personne. Plus que des langues étrangères, il communiquait avec un médecin en médecin, il communiquait avec moi, par exemple, dans mon langage. Il savait parler. Et c'était impressionnant, par sa gentillesse et il avait ce côté. Mais Paul-Émile Victor, ce n'était pas un meneur d'hommes. Donc quand ils sont arrivés au Groenland en 47-48 pour la première expédition, ils sont allés au nord de la baie de Disco, à Camp 1, et ils se sont aperçus que pour traverser, pour aller de Camp 1 à Camp 3, il fallait traverser la zone marginale, faite de crevasses. La zone marginale, après la zone marginale, quand on va vers la mer, c'est la zone de vélage des glaciers. Donc la glace brise, la calotte polaire, elle est pleine de crevasses et de ci et de ça, de goulets. Et donc il faut absolument éviter ces zones. C'est pour ça que Et Victor, il ne savait pas manœuvrer avec ces gens. Donc, il avait embauché beaucoup de gens issus de Jeunesse et Montagne. Donc, qu'il avait rencontré, Robert Guillard, il l'avait rencontré, qui s'était engagé dans l'armée après son maquis et qui était dans les troupes de haute montagne. Et en Autriche, Et donc, il y a beaucoup de gens. Le prêtre Jean Violot, c'était Jeunesse et Montagne, Marinier, Fèvre, Chourchon, plein de gens comme ça, c'était des gens issus de Jeunesse et Montagne. Jeunesse et Montagne, beaucoup, c'était des gens que le gouvernement de 1939, à la défaite, à l'armistice, ont envoyé en Savoie. C'était des militaires, la plupart, Tonton, Belloir et deux gens comme ça, pour remplacer un peu les prisonniers de guerre français qui étaient dans les camps, qui étaient prisonniers. Donc il y avait les choses à faire, les foins, les ci, les ça, et ils sont allés jusque Chambéry et Aix-les-Bains, et puis donc là, et sous la responsabilité de Guide de Haute-Montagne, qui était aussi militaire. Donc, voilà les gens de Jeunesse et Montagne. Et donc, il a rencontré Robert Guillard, qui lui a été conseillé par un militaire. Et Robert Guillard, il a accepté de se joindre à lui, tout en restant militaire. Donc, Robert Guillard est resté militaire jusqu'en... il a fini comme commandant, mais enfin, il était détaché aux expéditions polaires françaises. Et à tel point que Victor, en 48, c'est Tonton qui me le disait, à un moment, Victor, il a prétexté je ne sais pas quel truc, et puis il est parti, il a dit à Tonton, tu te débrouilles avec ces gens, voilà. Et Tonton, il a fait le boulot, voilà. Voilà l'histoire de Tonton, alors il s'entend très bien. Autre relation de Victor qui n'était pas tout à fait facile, c'est celle avec les scientifiques. Il avait été créé en 1952 un sous-comité pour l'année glaciologique, l'année géophysique internationale, et donc c'est le révérend père Leget, Pierre Leget, qui était patron de ça. Entre Leget et lui, c'était pas l'amour, c'était loin de là. Et Victor, c'était Victor. Et coïncidence, la secrétaire du révérend père Leget, elle s'est mariée avec Tonton, avec Robert Guillard. Voilà, petite histoire, anecdote.
Voilà. Alors maintenant, comment dire, on va peut-être attaquer un petit peu aussi, continuer sur le Groenland, mais avant de parler de tes expéditions au Groenland, tu pourrais nous préciser quel était l'intérêt scientifique de ces expéditions, qu'est-ce qu'on cherchait et quel était l'intérêt pour la science et les découvertes de faire ces expéditions scientifiques vers les pôles.
Alors au Groenland, le Groenland c'est la glaciologie bien sûr, la topographie. Hein, donc quand j'y étais, c'était des Suisses qui étaient chargés de la topographie là-bas, un peu de biologie, mais sans plus. C'était surtout la glaciologie. En 1900, même avant, il a été créé. Ils ont créé à Station Centrale, donc c'est au centre du Groenland. Ils ont créé une grotte dans la glace et il y a trois hommes qui sont restés 8 mois là. 8 mois dans les glaces, il y avait Toto Marinier, Delannurien et perdu de nom. Et donc ils sont restés un an et quand ils sont venus les rechercher, ils parlaient tout seuls. Ils étaient complètement déphasés, Toto Marinier. Il a parlé 48 heures tout seul, il s'est bon, voilà, et il faut le vivre, hein, donc ils mesuraient ils faisaient leur boulot de scientifique, on leur avait donné le guide de mesurer les parois, de prendre les températures. Donc au Groenland, l'hydrographie, quand les crevasses se forment, au fond de la crevasse, il y a de l'eau qui va et ça fait comme un moulin. Donc on met des colorants dans le moulin et puis on regarde où l'eau part, on fait des études, quoi, hein, toutes les études. Et puis aussi, au Groenland, mais en Terre Adélie, c'est la même chose, il y a la médecine fait des recherches sur les participants aux expéditions polaires françaises. Donc, que ce soit température, le psychique, plein de choses. Quoi, hein, on leur demande, au Groenland, on leur demandait... On a Rivolier, le docteur Rivolier leur a demandé, qui était là-bas aussi, il leur a demandé par exemple de voir combien de temps ils pouvaient rester nus dehors. Donc voilà, voilà. Il n'y a pas de demoiselle. Hein.
Monsieur Aubry, je note que Robert Guillard, dans l'introduction de votre livre, termine sur cette phrase magnifique en vous félicitant, en vous disant que vous avez été reconnu par vos pairs comme un homme bipolaire. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un homme bipolaire?
Alors, ça, le fils de mon ami Sablon du Corail, qui est à la Sorbonne, chercheur histoire à la Sorbonne, le fils, à Mal, donc il m'a dit ça, il dit, mais vous êtes bipolaire. Donc, je lui ai dit, oui, mais bipolaire, pas au sens psychique, hein, pas au sens médical. Bipolaire, j'ai fait les deux pôles, quoi. On n'est pas, voilà. Voilà, voilà, voilà. Non, non. Voilà. D'ailleurs, il y a des... Quand on recherche des gens pour aller dans ces missions, sachant qu'on va être en permanence avec les mêmes personnes, et toujours avec les mêmes personnes, ça peut créer des fois des problèmes. On cherche des gens qui sont à peu près sains de corps et d'esprit.
Voilà. Alors, on peut peut-être venir un petit peu plus précisément donc aux expéditions polaires au Groenland. Et bon, donc tu peux nous parler de celles que tu as faites, du rôle des hélicos, des Nord Atlas, des équipages militaires dans cette aventure où vous avez apporté une plus-value considérable dans la logistique et dans la réalisation des missions des scientifiques.
Donc le rôle aérien. Bon, il y a trois rôles aériens. On va commencer par les... Bon, aujourd'hui, il n'y a plus d'expédition au Groenland, mais les dernières expéditions jusqu'en 1974, l'US Air Force mettait à disposition de Victor, hein, voilà, bon, c'était pour les 1000, hein, il mettait à disposition des C-130 sur ski pour emmener les véhicules au-delà de la zone marginale vers Daïtou. Cette zone de radar qui va de l'ouest canadien jusqu'en Norvège, qui était là pour repérer les intrusions d'avions du bloc de Varsovie, quoi, de l'URSS. Donc, les expéditions partaient de Daïtou, c'est un radar, hein, qui est là-bas, qui est resté, il paraît que c'est pas trop joli, ça n'existe plus, n'a plus aucune utilité, mais les Américains ont laissé en vrac le truc, là, bon, voilà. Et de là, donc, les véhicules, il les mettait en œuvre, et puis il partait vers Cancis, on appelait Cancis, c'est bien plus au nord, hein, non, mais pas à l'ouest, pas à l'est, je veux dire. Et donc, voilà le rôle, ça c'était le rôle des C-130. Les Nord Atlas étaient utilisés déjà, on peut dire, pour emmener les Alouettes 2 sur l'aérodrome de BW-8, c'était le nom de la base américaine, de Sundström Fjord. Et donc, ils emmenaient. Après, les Nord Atlas étaient chargés de faire des parachutages sur le convoi ou du dropage. C'est-à-dire qu'ils dropaient les fûts d'essence ou choses comme ça, ou les chenilles, parce que les chenilles, ça casse, ils les dropaient sur la glace près du convoi, quoi. Les Alouettes 2 ont été utilisées au départ, alors que la participation des C-130 n'était pas envisagée, de faire des reconnaissances de la zone marginale pour franchir les zones où il y avait... où Tonton ou Victor à bord, ils cherchaient des passages pour éviter les crevasses. Et donc, et après, quand ça n'a plus eu lieu d'être, donc en 67 et 68, les Alouettes 2 en 67 étaient avec le convoi et déplaçaient les scientifiques vers des points pour des carottages, des points rapides, quoi, on veut dire, ou les topographes pour les emmener dans des lieux, faire des repères, ou baliser les choses. Quant à nous, en 68, nous étions dans le village de Jakobsen, on était logés à Jakobsen, et on est resté 2 mois là-bas, et l'hélicoptère civil puisqu'il y avait une liaison civile entre l'aéroport de Sønsgårdfjord et plusieurs points en Groenland, emmenait les gens, les passagers, parmi lesquels des gens des expéditions polaires françaises, et nous les acheminions de ce village vers les camps au centre, vers le camp de départ du centre du Groenland, puisque voilà.
Gilbert, peut-être juste préciser pour nos auditeurs que les lieux géographiques dont on nous parle, quand on regarde la carte du Groenland, en gros, c'est une route traversière qui va partir, quand on regarde à partir de la pointe sud du Groenland, à un tiers de la hauteur de la côte ouest vers la côte est. Et voilà, la base d'où vous partiez est située sur la côte ouest et bien plus bas que la célèbre base américaine de Thulé, où il y avait de nombreux bombardiers et une base très importante sur laquelle notamment il y avait eu un accident en 1968 où un B-52 avec 4 bombes nucléaires s'était écrasé pas très loin de la base avec un feu à bord. Voilà.
Donc, pour ces voyages transporter des passagers, nous volions systématiquement avec les plateaux sirènes, les civières, quoi, hein, de chaque côté, et donc ce qui nous permettait d'emmener les gens et aussi leurs bagages, parce qu'ils avaient aussi des bagages. Quand nous partions aux expéditions polaires françaises, nous étions vêtus. Nous avions des paquetages de vêtements polaires, bottes, bonnets, enfin tout ce qui peut exister. Ça faisait de gros sacs. Donc ces gens qui partaient en raid, forcément ils avaient des paquetages plus importants et légers. Donc on les mettait sur les plateaux sirènes et les passagers à l'intérieur de l'alouette et puis on partait. Et donc c'était un de nos grands rôles et aussi on accompagnait les scientifiques pour faire des carottages ou les topographes, quoi. Alors les topographes des Suisses, les pauvres, un jour ils ont oublié la déclinaison, ils étaient mal, ils s'étaient un peu trompés de route. Mais bon, bref.
Oui.
Mais ça arrive. Voilà. Et à pied. Hein.
Oui, ce que l'on peut préciser, malgré tout, c'est que c'était toujours quelque chose de pointu, parce que, bon, l'Alouette 2, bon, je ne sais pas si celle du début avait cette masse max au décollage de 1600 kg, masse à vide autour de 940. Donc, la charge offerte de 650 kg, il faut la répartir entre le pétrole, l'équipage, les bagages. Donc, il faut toujours calculer au mieux. Et dans ces régions où, si on se perd un petit peu, si la météo est mauvaise, on est toujours short pétrole. Donc, il fallait que les équipages soient très, très prudents et, pour ne pas se faire piéger par des pannes carburant.
Oui, ceci dit, Robert Guillard, puisque c'était lui, hein, le donneur d'ordre, c'était lui. Hein. Mmh. Il ancien aviateur, et puis il faisait une attention, même très très, il appuyait beaucoup sur la sécurité. Et puis il fallait pas faire on jouait pas. S'il disait vous ne pouvez pas venir, il était hors de question de tenter. Donc on jouait pas, parce qu'il y a donc pour naviguer sur la calotte glaciaire, il y a le phénomène du whiteout. Le whiteout, c'est un phénomène comme un nuage où la planète, la calotte glaciaire et le ciel on est perdu, on ne sait pas, ça, ils se ressemblent, ils se confondent. Et donc, ils se confondent tellement qu'on perd toute référence au sol. Et d'autre part, il y a un autre phénomène, puisque par moment, il y avait des balises, hein, des balises des convois, il y a le drift. Le drift, c'est pas il y a le blizzard, bien sûr, le blizzard, hors de question de voler, et le drift, c'est un vent qui soulève la couche de neige à environ un mètre de hauteur. Donc souvent, ça cachait les balisages. Et donc, c'est comme ça que Jean Marescot, Jean Marescot en 67, eh ben, il a percuté la planète. Il y avait un hélicoptère qui volait, on va dire, à à 300 mètres de haut, et lui, il suivait les balisages au plus près, et puis il a tellement suivi les balisages au plus près qu'il a percuté la planète. Voilà, donc la loi de 2, elle s'est cassée. Et Tonton, il fallait pas jouer. Si on avait un relais radio sur la base américaine, qui est un relais radio qui était tenu par Nafrechou, un marin, il y a beaucoup de marins aussi dans ces jours, des marins civils, et donc c'est lui qui faisait officier radio là-bas. Nous, on avait une radio au village, quoi, hein, et il y avait une autre radio, donc, au convoi, qui était, bon, et Tonton était toujours là à la radio pour dire non ou oui, ou si, hein, il jouait pas avec leur, que ce soit là ou en Terre d'Élie, c'était pareil. Et donc, nous, si on voyait que c'était pas bon, on n'y allait pas, quoi, si Nafrechou nous disait que c'était pas bon, voilà. Voilà, monsieur, oui.
Monsieur Aubry, je voulais vous poser une question. Vous parliez du whiteout, qu'on appelle peut-être le blanc dehors en français. Je découvre en même temps, parce que je ne connaissais pas le blanc dehors. Bon, je vois sur Wikipédia, blanc dehors, temps laiteux, ou jour blanc, voile blanc. C'est un phénomène optique atmosphérique, particulièrement dans la région polaire, dans lequel les contrastes sont nuls et où tout semble enveloppé d'une lumière blanche uniforme. Voilà. Alors donc, dans ces cas-là, il est très facile donc de se perdre, car il n'y a pas de point de repère. Mais quand on est pilote au pôle, on n'a pas de point de repère, alors que les pilotes, d'habitude, ont toujours des points de repère. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des cartes ? Il y a quoi ?
Alors, nous n'avions pas de cartes, bien sûr. Les cartes sont uniquement pour les zones côtières. Hein, les zones côtières, bon, il y a des cartes, bien sûr. Arrivé sur la calotte glaciaire, il n'y a plus de repères. Donc, on va au cap, en tenant en compte de cette différence entre pôle sud magnétique, pôle magnétique et pôle géographique. Et puis, les trois, parce que dans une alouette 2, il y avait un pilote à mécano, et dans l'autre, il y avait un seul pilote. Mais c'était le regard fixe à la recherche du convoi, donc de ces éléments rouges qu'on voyait au loin. Et en bas, les gens des expéditions polaires, du convoi, ils étaient à l'écoute des alouettes 2, et puis des fois, ils nous disaient « je crois qu'on vous entend à gauche, on vous entend à droite ». C'était assez difficile. Mais voilà, on se quittait pas. Vous voyez, Philippe ?
Oui, alors, je précisais effectivement, le white-out, je dirais que c'est une perte de référent visuel parce qu'on est comme dans un brouillard, je vais dire, profond. Et c'est, bon, une fois qu'on est en vol, c'est sur une petite couche près du sol. Une fois qu'on est en vol, c'est moins gênant. C'est très dangereux pour le poser. Bon, j'avais parlé lorsque nous avons...
Philippe, je pense, le white-out, pour se poser, bon, on y arrive. Mais le drift est très gênant pour se poser, puisque le drift arrivait, si on prend un véhicule, par exemple, un véhicule, ça fait une hauteur de 1,80 m, 2 mètres, on va dire. Hein, les véhicules, je parle des chenillettes, les caravanes et ça. Et le drift arrivait à la moitié de la caravane. Donc, on ne sait jamais quand on arrive au sol. On baisse, et puis... Après, c'est une question d'habitude, mais les premiers posés sont un peu curieux à faire.
Oui, effectivement. Il fait tellement froid au Groenland que la neige ne volait pas, comme elle peut voler dans les Pyrénées ou en montagne, comme le sable peut voler au Tchad lorsqu'on se pose. Et bon, c'est là où on voit l'énorme progrès qu'ont fait maintenant les machines sur le Caracal, comme je l'expliquais lorsqu'on a fait des missions sur les hélicoptères de l'armée de l'air. Avec le pilote automatique et le coupleur de vol, on arrive en stationnaire au-dessus de ce nuage de sable et tranquillement, la machine va se poser automatiquement, bon, avec l'assistance des mécaniciens d'équipage sur le côté de l'appareil pour voir le moment où on va toucher, mais en toute sécurité. Si on fait ça à la main, on a toutes les chances de ne pas y arriver et de planter la machine.
Le vent soulève la neige sur les calottes glaciaires. D'accord. Il soulève la neige.
Oui, même si elle est bien gelée.
Ah oui, ben, y a toujours une fine couche, oui. Et c'est ce qu'on appelle le drift.
D'accord. Alors, avant que l'on, comment dire, que l'on passe. Tu peux nous préciser un petit peu, on a parlé plusieurs fois des carottages. Que sont les carottages et quelle est leur utilité?
Alors les carottages, donc, c'est fait par l'Institut de glaciologie de Grenoble, hein, bien sûr, c'est Grenoble, ou alors Munich, ou alors d'autres laboratoires invités à participer à ces explorations. Et donc, le carottage permet de mesurer dans les bulles qui sont intérieures de la glace, dans les bulles d'air qui sont à l'intérieur de la glace, de mesurer les températures à des années avant, de regarder la pollution qu'il y a eu, ils arrivent à dater les bulles et à mesurer la pollution, et quel type de pollution. Il y a des choses comme ça, mesurer, je parlais hier de la radioactivité, en cas d'une explosion nucléaire pratiquée par un pays ou un autre, ils arrivent à trouver quand l'explosion nucléaire a eu lieu, quand les essais nucléaires ont eu lieu. Ils arrivent des choses. Et puis à la fin du carottage, forcément, ils arrivent, parce que sous les calottes glaciaires, la calotte glaciaire bouge sans arrêt. Elle bouge sans arrêt. Donc pour bouger, il faut qu'elle glisse. Et ce glissement provoque de l'eau. Donc elle glisse sur l'eau, la calotte glaciaire. Et au-dessous, à Vostok, par exemple, ils ont découvert un immense lac. Oui.
C'est bon, continue Gilbert.
Ils ont découvert un immense lac et le lac, je ne crois pas qu'il ait encore percé pour éviter de le polluer. Ils ont atteint la coque du lac, mais ils n'ont pas voulu l'atteindre, je crois, aux dernières nouvelles.
Monsieur Aubry, vous avez effectué des missions extraordinaires, vous avez exercé je ne sais combien de métiers au pôle Nord, mais vous vous ramenez maintenant à la région de Pau, vous avez bien connu. Qu'est-ce que vous avez préparé pour aller de Pau vers le pôle Nord?
Le pôle Nord, j'y suis allé quand j'étais à Saint-Dizier. Donc, ils cherchaient des gens pour aller... Mais moi, je suis de Rennes, originaire de Rennes. Je suis breton, parce qu'on prend des gens sérieux pour aller là-bas.
Vous avez vu la Nuria également?
Non, oui. Nous vous accorderons cette bretons. Dernière réflexion.
On voit que la plupart étaient des militaires, quand même.
Non, beaucoup de... Les manards, on va dire, les gens qui travaillent, aujourd'hui, beaucoup de guides de haute montagne, des gens de la montagne, quoi, qui reviennent, et des mécaniciens décident ça, quoi. Non, il n'y a rien. Moi, j'étais volontaire pour tout, pour aller voir ailleurs, si j'y étais. Donc, ça m'a permis. Et ça m'a permis de vivre avec des Groenlandais, bon, très bien, on était. D'apprendre l'Eskimo un peu, et puis voilà. Il faut vivre, hein. Parce que les Esquimaux, ils parlaient danois, forcément, très peu anglais, et nous, on parlait un peu anglais, pas trop danois du tout. Et donc, il a fallu apprendre l'Esquimaux pour vivre avec eux. À savoir qu'il y avait, par exemple, il y avait balle deux fois par semaine à Jacobson. Après la séance de cinéma, il y avait balle. Bon. Alors le cinéma, c'est une anecdote. Et c'était souvent des films anglais, bien sûr, des films américains, sous-titrés en danois, et coupure, ils expliquaient en eskimo. Alors nous, on riait les derniers. Sauf une fois, il y a eu un film en français, on riait les premiers.
Eh bien, messieurs, je vous propose de mettre fin à cette première émission qui était passionnante, mais on a encore tellement de choses à découvrir avec Gilbert Aubry. Je vous propose de nous donner un deuxième rendez-vous très très rapidement. Merci Gilbert Aubry, merci Général Philippe Carpentier, Joël-François Dumont, rendez-vous très très vite également.
Absolument.
Rendez-vous avec Une émission proposée et présentée
par Joël François Dumont et Jean-Michel Poulot.